Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vais évoquer pour vous le cardinal Dubois, principal ministre de Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV et régent du royaume durant la minorité de Louis XV. Sur chacun de ses portraits, il esquisse un léger sourire teinté de malice. Et si le marbre de Coustou, agrémentant son mausolée à l'église Saint-Roch à Paris, le représente en oraison, agenouillé, les mains jointes, le regard humblement tourné vers le sol, il n'en arbore pas moins ce même sourire énigmatique qui, davantage que la bienveillance naturelle de l'homme de Dieu, semble exprimer une ironie pleine de sous-entendus. Pourquoi ce sourire énigmatique ? Béatitude du serviteur de Dieu s'apprêtant à rejoindre son Créateur ou jubilation intérieure mal contenue d'un parfait Tartuffe, monstre de cynisme et d'ambition. C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode en deux parties. Seconde partie, l'apothéose. Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que le duc de Chartres, futur régent, était entré en disgrâce auprès de Louis XIV à la fin des années 1690 pour une sombre affaire de poison et de sorcellerie. Pourquoi le cardinal Dubois, à 40 ans passés, reste-t-il auprès d'un maître dont l'avenir est gravement compromis ? N'est-ce pas là la preuve éclatante de sa loyauté ? Lorsqu'en avril 1698, il est placé auprès du maréchal de Tallard, chargé d'aller négocier à Londres un traité de partage de la monarchie espagnole, il n'aura de cesse de négocier en sous-main la couronne d'Espagne pour Philippe. Au passage, il découvre émerveillé une Angleterre où 100 quartiers de noblesse, chacun peut réussir selon ses mérites. C'est à Londres où il noue toutes sortes de contacts qu'il fait ses débuts dans la diplomatie et la politique. Séduire, convaincre, dissimuler, promettre, soudoyer, user de subterfuges, il était fait pour ça. Et voilà que subitement, le 9 juin 1701, meurt Monsieur Frère du Roi. Désormais duc d'Orléans, Philippe se retrouve à la tête de la deuxième fortune du royaume. Tout naturellement, Dubois devient en quelque sorte son chef de cabinet. Dès lors, il se mêle de tout, régente tout, s'occupe des travaux d'embellissement du palais royal, commence à accaparer la première place, comme il le fera plus tard à la tête de l'État. Mais il ne perd jamais de vue les perspectives d'ascension de son poulain, instrument de sa propre ascension, puisque n'ayant rien par sa naissance, il ne peut assouvir son ambition qu'à travers celui auquel il se dévoue. Quand fin 1702, il se rend en Espagne sous prétexte d'aller complimenter le nouveau roi Philippe V, petit-fils de Louis XIV, il veut en réalité obtenir une reconnaissance discrète des droits de Philippe sur la succession d'Espagne. Pour ses bons et loyaux services dans cette affaire, Philippe lui offre une maison dans le palais royal et plus tard l'abbaye de Nogent-sur-Coucy. Louis XIV, lui, est furieux. La disgrâce de Philippe n'est pas à la veille de prendre fin, même s'il est rappelé à l'armée lors des campagnes difficiles de la guerre de succession d'Espagne. En 1710 et 1714, il est soupçonné d'avoir trempé dans les morts successives du grand dauphin, son cousin Germain, et des membres de sa famille. N'est-il pas féru de chimie ? Mais la mort du roi, le 1er septembre 1715, va changer la donne. Dans son testament, Louis XIV organise une sorte de co-régence entre son fils naturel, le duc du Maine, et Philippe. Un bâtard du roi co-régent ? Cela ne se peut ! Dubois constitue promptement un comité secret chargé de l'organisation de la prise du pouvoir. Il faut assurer au prince, à son prince, la bienveillance du Parlement et des armées. Il fait donc distribuer des pièces de monnaie dans tout Paris et crier le nom de son champion. Finalement, le tandem Philippe-Dubois parvient à faire casser le testament. Ce n'est rien moins qu'un coup d'État. « Les 7 ans de régence qui s'ouvrent vont marquer l'apogée de la carrière de Dubois. Devenu conseiller de Philippe d'Orléans, il jouit d'une liberté d'action et d'une indépendance que lui garantissent la confiance et l'amitié de son protecteur. Mais à la cour, les grands enragent de l'élévation de cet arrogant parvenu.
Relation singulière et unique dans l'histoire de France, d'un maître et son élève exerçant ensemble la pleine réalité du pouvoir, comme l'avaient fait jadis ensemble Sénèque et Néron. Même si l'abbé Dubois ne fut jamais Sénèque et le régent, en aucun cas Néron.
Dans les mois qui suivent, un prélat italien, le cardinal Alberoni, devient premier ministre de Philippe V en Espagne. Cet homme, c'est le double parfait de Dubois. D'une prodigieuse intelligence, d'une ambition et d'une volonté farouche, il vient lui aussi du peuple. Son père était jardinier. Alberoni veut faire la guerre et installer Philippe V sur le trône de France, quand Dubois, lui, veut instaurer la paix et faire du régent le roi d'Espagne. Même ambition dévorante, même bourreau de travail, même cynisme, même méthode plus ou moins tordue. Alberoni va tenter de faire renverser le régent par le duc du Maine. Enfin, un adversaire à la mesure de Dubois. Sous le regard impuissant de courtisans qui les haïssent, les deux ministres vont se livrer à une incroyable partie de poker qui va bouleverser pour un quart de siècle le visage de l'Europe. Face aux menées d'Alberoni, Dubois pousse le régent à nouer une alliance inédite avec l'Angleterre protestante. Proche du roi Georges Ier, il parvient à le convaincre que le salut de sa couronne passe par cette alliance avec la France. Il va se dépenser sans compter pour qu'elle voie le jour et le 4 janvier 1717 à La Haye, son activisme forcené est récompensé. Il signe la Triple Alliance contre l'Espagne. Puis l'année suivante, ayant rallié l'Autriche, la Quadruple Alliance. Battu à plusieurs reprises, Philippe V n'obtient la paix qu'à la condition de chasser Alberoni, qui le 5 décembre 1719 reçoit l'ordre de quitter l'Espagne. Pour le régent, c'est une immense victoire. Qui d'autre que Dubois fut le principal instigateur côté français d'une triple alliance qui, en rebattant les cartes de la diplomatie européenne, mit pour la première fois France et Angleterre dans le même camp? En renversant le système d'alliance, n'a-t-il pas obtenu pour le royaume de France 25 ans de paix après le règne sanglant du roi Soleil, constituant ainsi le premier embryon d'une Europe pacifique? Pour Dubois, toute peine mérite salaire, et ses ambitions ont l'art de s'élever à mesure qu'elles sont satisfaites. Il exige donc la charge de secrétaire de cabinet du roi, avec plume, comprenez, avec la signature. Par ailleurs, il reçoit l'abbaye de Saint-Riquier. Depuis Paris, d'où Philippe et lui gouvernent, s'ouvre une ère de changement et de liberté. Libération d'un grand nombre de prisonniers politiques et confessionnels, mise en place d'un nouveau type de gouvernement nommé polysynodie, dont le tandem s'affranchira rapidement pour revenir aux fondamentaux de l'absolutisme en nommant 5 secrétaires d'État, dont Dubois aux affaires étrangères. Le régent est aussi le premier souverain à s'intéresser à l'économie. Certes, les deux hommes partagent le pouvoir absolu, chose absolument inédite dans l'histoire de France. Mais Dubois laisse Philippe s'épuiser la nuit pour s'accaparer à ses dépens de plus en plus de prérogatives. Annonçant au régent la signature de la Triple Alliance, Dubois lui avait écrit
« Je vous suis plus redevable de m'avoir donné cette marque de l'honneur de votre confiance que si vous m'aviez fait cardinal. »
De l'art sans en avoir l'air de lui faire connaître son plus cher désir.
« J'ai nommé à l'archevêché de Cambrai, je ne crois pas que Dieu m'en sache beaucoup de gré, le plus grand coquin, le plus grand athée, le plus grand scélérat et le plus mauvais prêtre qu'il y ait au monde. »
Que Philippe, non-conformiste et provocateur notoire, ait tenu ce langage, ne l'a pas empêché d'obtenir du pape qu'il fasse Dubois cardinal. À la cour, on est suffoqué. Il va donc falloir lui donner du Monseigneur. Il va bénéficier de 150 000 livres de rente, d'un palais épiscopal magnifique, et pourra appeler le futur roi « mon cousin ». C'est un scandale inouï. Pour Dubois, l'heure de gloire est arrivée. Il lui faut toutefois satisfaire à deux petites formalités. D'abord, faire annuler son mariage, car il avait bel et bien été marié. Dieu merci, si l'on peut dire, le complaisant marquis de Breteuil, alors intendant de Limoges, fait disparaître toute trace de cet hymen, ce qui lui vaudra une nomination de ministre de la guerre. Seconde formalité, devenir prêtre. Dubois va bénéficier pour cela d'une procédure accélérée, recevant en une semaine les ordres mineurs, le diaconat et la prêtrise. Après quoi, le 9 juin 1720, il est sacré archevêque de Cambrai au Val-de-Grâce en présence du régent, mais sans le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, qui a refusé tout net de se prêter à cette mascarade. C'est cette cérémonie qui inspirera le fameux aphorisme « Le pape est un fin cuisinier qui sait faire d'un maquereau un rouget ». Cardinal, archevêque, Dubois obtient par ailleurs le poste de premier ministre auquel nul n'avait été nommé depuis Mazarin en 1661. Pompon sur sa barrette, il entre à l'Académie française et prend la présidence de l'Assemblée du clergé. À la tête de sept abbayes, il amasse une fortune considérable qui se chiffrerait de nos jours en dizaines de millions d'euros. Cette immense fortune compte-t-elle des subsides anglais, comme l'a affirmé Saint-Simon ? Cela n'a jamais pu être prouvé. Dubois ne fut pas l'agent de l'Angleterre, mais il est indéniable qu'avoir été l'artisan de l'alliance franco-anglaise lui a rapporté le pouvoir, l'archevêché de Cambrai et le cardinalat. À présent, Dubois est le maître. Il lui faut désormais se maintenir à la tête de l'État, laisser Philippe en réserve des affaires et continuer à gouverner lorsque Louis XV sera majeur. En attendant, il vit son apothéose. C'est lui qui organise le sacre de Louis XV le 25 octobre 1722 et se tient ainsi que le régent auprès du jeune roi. On imagine sans peine la tête des courtisans. Quelques mois plus tard, après une chevauchée, Dubois ressent une vive douleur à la vessie. Le chirurgien, la Péronie, lui ouvre le canal de la verge. Hélas, la gangrène est là, probablement un cancer de la prostate. Dubois meurt le lendemain de son opération, le 10 août 1723. Cette fois, le cardinal de Noailles, qui avait refusé de le faire archevêque, accepte bien volontiers de célébrer ses funérailles à Notre-Dame. Un siècle après sa mort, un obscur notable corrézien rédigera cette notice aussi lapidaire qu'infamante.
« A consacré sa vie à l'avilissement du prince dont il fut le favori. »
L'auteur aurait pu utilement méditer cette phrase de saint Thomas d'Aquin, dont Dubois aurait pu faire sa devise.
« Licet tuti alieni peccato alterius in bonum. » Il est licite de se servir du péché d'autrui pour le bien.
En fin de compte, quelle accusation peut-on vraiment retenir contre Dubois, hormis son ambition maladive ? Cynique, sans doute, lucide, anticonformiste, plus sûrement encore. Aux yeux de ses plus récents biographes, il fut surtout un génie politique, dont le seul tort fut de ne pas être bien né. Peut-être la réussite hors norme de cet homme du peuple au sein d'une cour hostile est-elle la clé de son énigmatique sourire ? Si cette plongée dont l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach, j'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rien rater de ces épisodes, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.